5, versets 1 à 4. Hébreux, chapitre 5, versets 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Alors, si vous voulez, on va prendre une minute pour demander au Seigneur de bénir le temps qu'on va étudier sa parole. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous venons à ta présence. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette journée que tu as instituée pour venir devant toi, de venir t'adorer, de venir aussi prier en Église et, Seigneur, te présenter des louanges chantées et, Seigneur, présenter aussi des prières, des requêtes, des intercessions. Merci encore une fois, on te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos intelligences à ce que nous comprenions ta parole et non seulement que nous la comprenions, Seigneur, mais surtout que nous lui obéissions. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on a commencé l'étude de l'Épître aux Hébreux à partir du chapitre 1. On va se rendre jusqu'à la fin. Et je pense que ce qui est important de faire, c'est sûr qu'on ne prend pas le chapitre 5 et on le tire hors de son contexte. Il faut regarder dans quel l'ensemble du contexte de l'Épître aux Hébreux, de façon à comprendre qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cherchait à véhiculer auprès des Juifs de l'époque, qui s'appelait le judaïsme. Alors, eux, ils attendaient le Messie à venir. Christ était venu, ils ne l'avaient pas reconnu. Et eux avaient la tentation de retourner dans le judaïsme pour différentes raisons. Parce qu'ils étaient sous une très grande pression sociale. Alors, les Juifs du début, du moment de Christ, il y a quelques années après, quand ils se convertissaient au christianisme, ils étaient persécutés, rejetés de leurs confrères, de leurs concitoyens juifs, et quand on plaçait quelqu'un hors de la synagogue, c'était l'expression qu'on utilisait, quand un juif était placé hors de la synagogue, ça le mettait dans une position extrêmement inconfortable et douloureuse, parce que ça le coupait socialement de l'ensemble de ses frères et sœurs, ça le coupait même économiquement de l'ensemble des autres juifs. Et c'était une grande tentation pour eux, sous cette pression-là, que de vouloir retourner dans le judaïsme parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant leur Messie. Alors, ils étaient tentés de retourner dans le judaïsme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il cherche à faire allumer les Juifs pour qu'ils reconnaissent que Jésus est infiniment supérieur au système judaïque de l'époque. Alors, le système judaïque, c'était le système sacrificiel où on prenait des animaux, on les égorgeait, on les faisait saigner, on les brûlait. Et c'était toutes des choses qui représentaient symboliquement la venue future de Christ. Mais eux, ils étaient vraiment tentés à retourner dans l'ancien système et à ne plus reconnaître Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait? Quand on se souvient un petit peu qu'on a étudié le chapitre 1, le chapitre 1, il veut démontrer aux Juifs l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur tout ce qui l'a précédé, sur les prophètes, sur les anges. Après ça, il a voulu démontrer qui était Jésus-Christ. Il était à la fois le Créateur, il était le sustentateur de l'univers, il le présente comme lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, et il était à la fois le Rédempteur et beaucoup d'autres choses. Alors, on ne retournera pas dans le chapitre 1, mais le chapitre 1 avait surtout pour but de démontrer la divinité de Jésus-Christ, ou la déité, appelez-le comme vous voulez. Dans la deuxième partie, les Juifs on sait qu'à l'époque, leur façon de voir le Messie, ils s'attendaient à recevoir un Messie conquérant, militaire, parce qu'ils étaient dominés par les Romains. Et eux, la manière de comprendre le Messie, c'était que lorsque le Messie viendrait, il conquérerait la terre et jetterait les Romains dehors. Alors, ils s'attendaient à un Messie vraiment conquérant, militaire. Et ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Ils ont vu un homme venu sur la terre et ils l'ont vu se faire crucifier. Pour eux, même si c'était des choses qui étaient prophétisées dans l'Ancien Testament qui arriveraient au Christ, eux ne l'ont pas reconnu et ils voyaient l'humanité de Christ et le fait qu'il ait été crucifié comme étant quelque chose qui entrait un petit peu en contradiction avec leur conception du Messie. Alors, dans le deuxième chapitre, on a surtout développé l'idée que Christ était pleinement humain. Quand Jésus était sur la terre, les Juifs, quand ils l'ont vu dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux? Un homme. Mais cet homme-là n'était pas un homme ordinaire. Alors, dans le premier chapitre, ils ont montré que cet homme-là était pleinement Dieu. Dans le deuxième chapitre, il leur a montré que cet homme-là était pleinement homme. Et la caractéristique de Jésus-Christ, c'est qu'il est l'homme-Dieu, avec un trait d'union. Pleinement Dieu, pleinement homme, et c'est ce qui faisait en sorte qu'il a été capable d'accomplir l'œuvre à la croix, donc de payer les péchés de l'ensemble de ses élus en subissant l'équivalent de ce qu'ils auraient dû subir comme punition en enfer à leur place. Et aussi sur la terre, à cause du fait qu'il a mené une vie parfaite, il a obéi au décalogue, à la loi morale, appelez-le comme vous voulez. Il a obéi à la perfection de la loi morale. C'est ce que Dieu exigeait de tout être humain. Que tout être humain se devait d'avoir pris la loi morale et de n'avoir jamais manqué à un commandement, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni sous aucune forme que ce soit. Est-ce qu'il y a un être humain sur la terre qui a déjà pu accomplir la loi morale à la perfection? Non, parce que la loi nous a été donnée pour nous montrer que nous sommes des pécheurs, pour nous montrer que les standards étaient tellement élevés que ce n'était pas possible pour nous de les atteindre. Christ, quand il est venu sur la terre, il a accompli les deux côtés de la loi, qu'on appelle l'obéissance active ou l'obéissance préceptive. Donc, il a obéi à la perfection, au décalogue, aux 10 commandements, à notre place. Il l'a fait de façon substitutive. Ça, c'est l'obéissance préceptive. Il a obéi à la loi durant toute sa vie, sans manquer. Il était notre second Adam, il était notre représentant. Mais il a aussi subi le châtiment que nous aurions dû subir comme pécheurs. Il l'a subi à notre place. Donc, les deux aspects, l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient leur montrer que Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, et que le fait qu'il ait été crucifié sur la croix n'enlevait absolument rien au fait qu'il soit véritablement le Messie. Et ensuite, il continue son exposé en si vous voulez retenir l'idée fondamentale de Hébreux, c'est supériorité. Et c'est pas une supériorité, des fois on peut dire une affaire est supérieure à l'autre, mais juste une affaire supérieure ordinaire. Ici, on parle de supériorité infinie. Alors, il parle que Jésus était supérieur de façon infinie sur les prophètes, sur les anges, et après, il prend leur grand personnage de l'histoire des Juifs. Moïse, Aaron et Josué. Alors, dans l'ordre, là, à un moment donné, il a commencé par Moïse, après ça, il a passé à Josué. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer la différence entre Josué et Christ? Josué, c'était un conquérant. Il rentrait dans la terre promise en se battant, comme le Seigneur lui avait dit de faire. Mais la conquête qu'il a faite, ça a été une conquête terrestre. Et si on compare, Christ, lui, il a conquis le péché, Satan, et il l'a fait de façon parfaite pour les pécheurs. Alors, il l'a comparé un peu à Josué. Et là, il est en train de passer à un autre personnage qui est extrêmement important dans le système du judaïsme. Donc, on a vu, il était supérieur à Moïse, et pour les Juifs, Moïse, c'était un grand personnage. supérieur à Josué, qui était leur leader, qui les a fait rentrer dans la terre promise. Et là, il est en train de vouloir démontrer l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur Aaron. Et qui était Aaron? Il était le souverain sacrificateur. Je trouve que ça donne bien qu'on fasse l'étude de Hébreu maintenant, après qu'on a fait l'étude du tabernacle. Parce qu'on va voir que ce qu'on a vu dans les 20 leçons qu'on a vues sur le tabernacle, ça vient coller directement avec le texte qu'on étudie aujourd'hui. Parce que le souverain sacrificateur, c'était celui qui, une fois par année, entrait dans le Saint des Saints, et avec le sang, et entrait avec du parfum. Et on va voir que quand Jésus est mort, le voile du temple qui séparait le Saint du Saint des Saints, c'est de valeur, ceux qui n'ont pas suivi, peut-être les leçons précédentes peuvent avoir un peu de difficulté peut-être à suivre, là, mais on ne peut pas les recommencer les 20. Le voile du temple, dans les Saintes Écritures, nous dit que quand Jésus est mort, le voile du temple, qui était un voile, semble-t-il, qui avait quelque chose comme 2 pouces d'épais, s'est déchiré du haut en bas. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dieu démontrait par cette façon-là, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, la voie, le chemin d'accès au Père était maintenant ouvert, pleinement. Et c'est ça qu'il voulait démontrer. Et là, on commence à rentrer dans la question du souverain sacrificateur. Aaron était le premier souverain sacrificateur. Quand Christ est venu, ce n'était pas Aaron qui était le souverain sacrificateur. C'était ses descendants. Il fallait que le souverain sacrificateur rencontre plusieurs critères. Le premier, il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi. Il fallait qu'il soit un descendant de Aaron lui-même. Donc, Aaron a eu des enfants, ses enfants ont eu des enfants, et il s'est produit, il y a eu beaucoup de souverains sacrificateurs là, entre le moment que Aaron est venu, et quand Christ est venu, il y en avait un souverain sacrificateur aussi. Mais là, la différence, c'est que là, il est en train de vouloir leur faire comprendre que Jésus est le souverain sacrificateur et qu'il était infiniment supérieur au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. C'est l'idée un petit peu qu'il va commencer à développer ce matin à partir du chapitre 5. Alors, on rentre vraiment dans une nouvelle section du livre ce matin. Du chapitre 5, aller jusqu'au chapitre 10, verset 39, l'auteur va développer l'idée et démontrer de façon systématique que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur parfait et que ça implique son infinie supériorité sur le souverain sacrificateur Aaron et sur tous les souverains sacrificateurs du judaïsme depuis Aaron et tous les descendants qu'il y a eu à venir jusqu'à Christ. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait déjà 3 fois fait des mentions dans les chapitres précédents que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur. On est rendu au chapitre 5, mais quand on regarde un petit peu attentivement Hébreux, à 3 endroits dans les chapitres, il n'avait pas vraiment développé beaucoup l'idée de l'infini. Il avait simplement mentionné que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur céleste. On peut le voir, par exemple, dans Hébreux, chapitre 2, verset 17. En conséquence, on parle de Jésus, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Alors, il ne rentrera pas dans les détails, mais déjà, la mention avait déjà été faite avant le chapitre 5. Ça avait été aussi mentionné dans Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, il est en train de dire, considérez que Jésus est le souverain sacrificateur céleste. Dans Hébreux 4:14, ça nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, voyez-vous, le mot qui est à retenir dans tout ça, là, c'est grand. Le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, on l'appelait le souverain sacrificateur. Mais ici, il parle de Christ, il dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Il est en train de leur dire, il a commencé à développer un peu l'idée du souverain sacrificateur en leur dire, « Hey, retournez pas dans l'ancien système. » Le vrai Messie est venu, il a fait son travail, et si vous retournez dans l'ancien système, c'est de la folie furieuse. C'est de confondre l'ombre avec la réalité. S'il y a quelqu'un qui se met devant moi, et que l'été est un homme, puis je photographie son homme, si, disons que c'est mon épouse, je l'aime, ben je ne photographierai pas l'ombre. L'ombre, puis la réalité, quand la réalité arrive, t'as mieux la réalité que l'ombre. Alors, c'est exactement ça qui se produit. Il veut leur montrer que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'était une ombre, un symbole, une représentation de la venue future de Jésus-Christ. Alors, quand on veut étudier le passage, je vous ai dit qu'on rentrait dans une nouvelle section du livre. À partir du chapitre 5 jusqu'à 10:39, on rentre dans une nouvelle section. Qu'est-ce que l'auteur va chercher à essayer de démontrer à ceux qui vont lire la lettre? Il va essayer de faire 7 choses. La première chose qu'il va essayer de démontrer, c'est l'infinie dignité de sa personne, en parlant de Jésus-Christ. Pourquoi il est infiniment supérieur et digne, si tu le compares à l'ancien, au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament? C'est parce que lui, il est le Fils de Dieu. L'autre, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il est un homme. On voit ça dans 4:14. Alors, il va commencer à vouloir démontrer l'infinie dignité de la personne de Christ. Deuxième chose qu'il va essayer de démontrer, c'est l'infinie pureté de sa nature. On a lu tout à l'heure dans le texte que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament présentait des sacrifices non pas juste pour les péchés du peuple, mais pour ses propres péchés. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament était un pécheur et il fallait qu'il offre des sacrifices pour ses propres péchés. La différence avec Christ, c'est que Christ a offert un sacrifice à son Père, son propre corps, et les Écritures nous affirment avec catégoriquement que Jésus-Christ était sans péché. Alors, le souverain sacrificateur, un qui est pécheur, l'autre n'est pas pécheur, mais quand on dit pas pécheur, aucune sorte de péché Jésus n'a accompli, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni aucune omission face à la volonté du Père. Si tu le compares au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'est clair qu'il était infiniment supérieur. Troisième idée qu'il va essayer de leur démontrer, c'est l'infinie éminence de son ordre et de son appel. L'ancien souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il fallait qu'il soit de la tribu de Lévi. C'était pas suffisant, ça. Il fallait qu'il soit fils d'Aaron ou de sa descendance. Jésus, quand il est venu, il n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la descendance d'Aaron. Alors, les Juifs pouvaient se poser comme question, mais comment ça se fait qu'il se prétend un souverain sacrificateur, puis il n'est pas de la tribu de Lévi, puis il n'est pas un descendant d'Aaron? Alors, ce que le Seigneur va leur faire prendre conscience, c'est que l'appel de Jésus-Christ pour devenir souverain sacrificateur, c'est quelque chose qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, et il disait que il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On va un peu plus loin là, dans le développement de l'Épître, on va revenir avec cette idée-là de Melchisédek, on va vous expliquer un petit peu plus en quoi ça concerne. Mais ce qu'il voulait faire comprendre aux Juifs, c'est même si Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, même s'il n'était pas de la descendance d'Aaron, il avait reçu un appel de Dieu, un appel divin. Donc, l'éminence de l'ordre, pour devenir un souverain sacrificateur, il fallait qu'il s'en rencontre certaines exigences. Et lui, l'exigence qu'il a rencontrée, c'est que c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire ce travail-là. On verra plus tard dans le verset 6 du chapitre 5. La quatrième chose qu'il va essayer de leur démontrer dans ce chapitre-là, c'est l'infinie solennité de son ordination. Si on irait dans le chapitre 7, versets 20 et 21, il a été ordonné de Dieu Autrement dit, il était ordonné avec serment. On n'ira pas nécessairement les voir ce matin, mais on va voir que l'ensemble des idées que je vous dis, dans le courant des semaines qui vont venir, vous allez voir que c'est tout ça qu'il essaie de leur montrer. La cinquième chose qu'il essaie de leur montrer, c'est l'infinie excellence de son sacrifice. Les sacrifices qu'il faisait, la Bible nous dit que les sacrifices qu'il faisait n'enlevaient pas les péchés, ils couvraient les péchés. Christ, lui, le sacrifice qu'il a offert, c'est qu'il s'est offert lui-même et il était... Pourquoi on l'appelle Jésus l'agneau? Parce qu'il représentait l'animal de l'ancien système sacrificiel et les bêtes qu'on offrait, il fallait qu'ils soient, pas sans péché, mais sans tâche. Il fallait qu'il soit le plus parfait possible. Mais Jésus, lui, était sans tâche de façon absolue, donc l'infinie excellence de son sacrifice. La sixième chose qu'il va chercher à leur démontrer, c'est l'infinie perfection de son administration. En s'offrant lui-même, il a satisfait à la justice divine, parce que sur la croix, il a subi le châtiment que nous aurions dû subir à notre place. Il a aussi donné accès au trône de Dieu, et a assuré notre rédemption éternelle. Je ne vous demande pas de retenir tout ça, là. C'est juste que je veux que vous voyez qu'il y a un développement, il y a une idée qu'il va chercher à développer à partir du chapitre 5, aller jusqu'à 10, 39. Il va chercher à développer l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur l'ancien système de sacrificature de l'Ancien Testament. Et la septième chose qu'il va démontrer illustrer l'infinie supériorité de Christ sur son office, le fait que le sacerdoce de Christ est intransmissible et éternel. Dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le souverain sacrificateur mourait, c'est son fils ou le fils de son fils, ainsi de suite. Alors, c'était transmissible. Il pouvait se transmettre de père en fils. Christ, quand il est venu, c'était la fin du système sacrificiel. Il accomplissait tout ce que l'Ancien Testament voulait symboliser par les sacrifices d'animaux. Alors, il est non seulement intransmissible, mais il est éternel. Pourquoi on peut dire qu'il est éternel? C'est parce qu'à sa mort, Jésus est rentré au ciel, et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, et il continue d'intercéder pour nous de façon permanente, ce qui n'était pas le cas des souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament. C'était toujours à recommencer. Une fois par année, il fallait qu'il rentre dans le Saint des Saints, et toujours recommencer. Ici, ce qu'il va chercher à leur démontrer, c'est que Christ, lui, à la différence de l'Ancien Testament, le travail qu'il a fait, non seulement sa sacrificature n'a plus besoin d'être transmissible, c'est intransmissible, il ne peut pas la transmettre à qui que ce soit, et c'est aussi éternel, parce qu'il est encore au ciel en train d'intercéder pour les élus. Alors, dans les quatre premiers versets du chapitre 5, l'auteur débute avec une grande sagesse en préparant la voie à sa démonstration parce que pour les Juifs, quand tu parlais de Moïse, que tu parlais de Josué ou que tu parlais d'Aaron, le souverain sacrificateur, pour eux, c'était le top des tops. Alors, si tu voulais démontrer l'infinie supériorité de Jésus sur ces personnages-là, il fallait que tu y ailles avec doigté, parce que eux, ils avaient vécu dans ce système-là des millénaires, et là, c'est comme du jour au lendemain, tu dis, t'abandonnes tout ça, puis on change de système. Alors, il va commencer à préparer le terrain, à vouloir démontrer l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur Aaron, puis il va le faire de trois façons dans les premiers versets du chapitre 5, ceux qu'on étudie aujourd'hui. D'abord, il va vouloir établir que les prérequis de l'essentiel de la sacrificature d'Aaron, il les rencontrait. Ensuite, il va leur montrer que Christ n'a pas les imperfections que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament avait. On a lu dans le texte tout à l'heure que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il était un pécheur. Et quand il entrait dans le Saint des Saints, c'était à la fois pour présenter des sacrifices pour son péché, ses péchés, et aussi pour ceux du peuple. Christ, quand il s'est présenté, il ne pouvait pas... C'était pour les péchés de ses élus, le péché du peuple, mais non pas pour ses propres péchés, parce qu'il n'en a jamais commis de sa vie. Il le faisait à notre place. Et l'autre idée qu'il va commencer à vouloir développer dans ces quatre premiers versets-là, c'est que Aaron n'a pas les perfections du grand souverain sacrificateur Christ. Voyez-vous, il va graduellement, très doucement, très avec plein de sagesse. L'auteur des Épîtres aux Hébreux, c'était fort probablement un juif lui-même. Alors, il savait comment présenter une vérité à des gens qui étaient enracinés dans un système et commençait à leur démontrer que Jésus-Christ était infiniment supérieur à ça, mais il le faisait graduellement, intelligemment. Parce que s'il aurait été trop vite, il les aurait bousculés, il aurait dit, toi, là, viens pas nous changer toutes les affaires qu'on a apprises depuis 2000 ans. On fonctionne. Alors, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament se devait de rencontrer certains prérequis. Ils étaient au nombre de 5, ces prérequis-là. Et là, ce qu'il cherche à faire, c'est que Jésus, quand il est venu, il avait ces prérequis-là, mais on va voir qu'il y avait des choses, lui, que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament n'avait pas. Alors, premièrement, il se devait d'être un homme. Ça lit dans Hébreux 5, verset 1. « En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes, donc il fallait qu'il soit un homme, ça n'aurait pas pu être un ange, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. » Voyez-vous, un homme qui travaille pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Première chose qu'il se devait pour être un souverain sacrificateur, il se devait d'être un homme. Est-ce que quand Jésus est venu, il était un homme? Oui. Deuxième, il se devait de servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Quand vous regardez la fin du verset 1, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, il se devait de servir de médiateur. Dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas se présenter de façon directe devant Dieu. Il fallait qu'ils se présentent devant Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un qui était entre les deux, un médiateur. Quand on parle de médiateur dans le sens des syndicats, c'est quelqu'un qui établit le contact entre deux parties. C'est exactement ça que le médiateur se devait de faire. Il établissait le contact entre Dieu et les hommes et ça prenait quelqu'un au milieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur. Donc, il était un médiateur entre Dieu et les hommes. Troisième chose qu'il se devait de rencontrer, il se devait d'être sympathisant pour les misères de ses semblables. Hébreux 5, 2. Ça dit, il parle du souverain sacrificateur, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Puisqu'il était un pécheur, il était capable de comprendre les souffrances, les misères de d'autres pécheurs qui étaient ses frères et ses sœurs, des juifs. Mais est-ce que Christ, qu'on a vu dans les leçons précédentes, est-ce que Christ peut être indulgent pour nous? Parce qu'on a vu la semaine passée dans Hébreux 4, 15, qu'il était capable de rencontrer, on va le retourner juste pour 4, 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, il parle de Christ, qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors, il est en train de démontrer que cet autre prérequis d'être un souverain sacrificateur, Christ l'avait aussi, parce que lui aussi, ayant été tenté en toutes choses comme nous, était capable de sympathiser à nos misères et à nos faiblesses. Parce que ça dit, et quatrième prérequis, se devait d'offrir des sacrifices pour les péchés du peuple et pour les siens. Ça dit, et c'est à cause de cette faiblesse humaine, pécheresse, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Alors, l'idée à retenir, c'est que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur était un pécheur. Dans le Nouveau Testament, Christ, le nouveau grand souverain sacrificateur, n'est pas un pécheur. Sans péché, Christ n'a jamais fait un péché de sa vie. Aucun péché d'aucune forme. Cinquième chose, il se devait d'avoir été appelé de Dieu. Ça dit dans le verset 4, nul ne s'attribue cette dignité. Dans l'Ancien Testament, là, les Juifs, là, ils pouvaient pas un s'avancer en avant puis dire « Bon, à matin, moi, je vais commencer à servir comme souverain sacrificateur. » Ça marchait pas comme ça. Le peuple n'aurait pas accepté. Il connaissait les lois de Dieu. Il savait qu'il y avait des prérequis rencontrés. Et, comme le texte le dit, « Nul ne s'attribue cette dignité. » S'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Aaron avait été appelé de Dieu. Alors, l'Épître aux Hébreux va développer l'idée que Christ rencontrait les prérequis de l'office d'Aaron, que Christ n'avait pas les faiblesses et imperfections d'Aaron, que Christ avait des perfections que Aaron n'avait pas. Voyez-vous? Très habile. Il commence tranquillement, il rentre dans le sujet. Et vous allez voir au cours des semaines qui vont suivre, toutes les sept choses que je vous disais, qu'il va chercher à leur démontrer, c'est ça qu'il va faire, tranquillement. Il va développer l'idée, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il va leur dire, ben là, vous êtes censé d'avoir compris. Alors, versets 1 et 2, Aaron, c'était l'ombre des choses à venir, c'était le symbole du Christ à venir, du Messie à venir. Aaron était un médiateur qui avait été ordonné. Dieu avait soigneusement établi l'absolue nécessité d'un médiateur afin que les hommes puissent l'approcher. On le voit ça juste un petit peu avant que le Seigneur donne les 10 commandements de Dieu sur la montagne. Dans Exode 19, le Seigneur commence à préparer le peuple sur « on ne se présente pas devant moi n'importe comment ». Ça prend un médiateur. Alors, il le fait dans Exode 19, versets 10 à 25, on va le lire. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Voyez-vous, le Seigneur est assez sévère. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches, animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, ils lavèrent leurs vêtements, et il dit au peuple, « Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Quand on dit qu'un cheval portant l'épouvante, l'épouvante, c'est une crainte qui te terrorise. Littéralement. Alors, le peuple était saisi quand ils ont commencé à entendre les sons, les tonnerres, les éclairs. C'était une manifestation que Dieu s'approchait et le peuple était terrorisé. Verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent en bas de la montagne. Verset 18, la montagne de Sinaï était toute enfumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous imaginer tonnerre, éclair, puis une montagne qui se met à branler comme ça. Ça devait être terrorisant. Merci. Verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Verset 20, « Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. » Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-les. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Voyez-vous, c'était dans l'Ancien Testament quelque chose que Dieu avait établi, que ça prenait un médiateur entre son peuple et lui. Et Christ était ce médiateur. Exode verset 28, verset 1. On voit dans Exode 28 comment Dieu a dit à Aaron, l'a établi dans son office de souverain sacrificateur. Il lui dit, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés, qu'ils exercent mon sacerdoce. Si vous vous souvenez, quand on a étudié le souverain sacrificateur, on a vu à quel point c'était un habit qui était impressionnant. Il y avait toutes sortes de choses, il y avait le pectoral, on ne reviendra pas dans toutes ces choses-là, la lame sainteté à l'Éternel, une lame en or, et toutes ces choses-là. Et l'office de souverain sacrificateur pour les Juifs, c'était l'office suprême. C'était comme, politiquement, là, quand Jésus est venu, qui contrôlait la nation d'Israël? C'est sûr que c'était les Romains, mais les Romains avaient quand même laissé un peu de place aux Hébreux. C'était les fameux 70. Et qui était à la tête des 70? Le souverain sacrificateur. À l'époque, le souverain sacrificateur avait un rôle énorme politiquement, socialement, était vu comme le principal personnage des Hébreux. Alors, le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament se devait d'être de la tribu de Lévi et plus particulièrement de la descendance d'Aaron. On sait qu'à l'époque de Jésus, les Romains avaient commencé à trafiquer l'office, parce qu'ils voulaient avoir quelqu'un qui était plus facilement manipulable, et ils avaient pris certains qui ne rencontraient pas nécessairement les prérequis de Dieu, mais eux, pour des fins politiques, disaient « Ah, OK, lui, on va le tasser, on va en mettre un qui est plus facilement manipulable. » Et ils avaient commencé à vendre l'office. Mais on sait que c'est pas à cause qu'ils le faisaient que c'était nécessairement approuvé de Dieu. Pour être approuvé de Dieu, il fallait que ça rencontre les critères, les prérequis de Dieu. Alors, la première chose que le souverain sacrificateur se devait être, il se devait d'être un homme. Jésus-Christ rencontrait pleinement cette exigence puisqu'il s'était incarné dans une chair d'homme. Un ange n'aurait pas été qualifié. Autre chose, il se devait d'être un médiateur entre Dieu et les hommes, qu'on a vu tantôt, établi, pris du milieu des hommes, établi pour les hommes dans le service de Dieu. Donc, il se devait de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Le but des offrandes, c'était de les rendre acceptables auprès de Dieu. C'était les parfums, les actions de grâce et la perfection du sacrifice lui-même. Le but des sacrifices, c'était couvrir les péchés du peuple et couvrir ses propres péchés. Si on compare Lévitique, c'est un livre qu'on ne va pas très souvent étudier, et même quand on le lit, on peut avoir certaines difficultés à comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir montrer aux Juifs de l'époque. Il y avait 5 sortes de sacrifices qui étaient présentés dans le livre de Lévitique. Et on va les réviser rapidement, qu'on n'ira pas dans le livre de Lévitique, c'est juste pour voir que quand on dit que le souverain sacrificateur offrait des offrandes et des sacrifices, on va voir que dans Lévitique, dans les 7 premiers chapitres du livre de Lévitique, il y avait 5 types de sacrifices qui sont mentionnés et qui ont un rapport avec l'œuvre de Jésus-Christ. La première, c'était ce qu'on appelait l'Holocauste, Lévitique 1, verset 1 à 7. La plénitude, ça représentait la plénitude d'accomplissement de la volonté de Dieu. L'Holocauste, ça se devait d'être brûlé complètement. Tu sais, quand on dit que quelqu'un se brûle pour quelque chose qu'il aime, il aime tellement ça qu'il s'est brûlé. Là. Brûlé, c'est le sens de Christ a tellement accompli la volonté de Dieu que c'était considéré comme une offrande de plein accomplissement de la volonté de Dieu. En anglais, les anglophones appellent ce premier type de sacrifice de Lévitique « the fullness of Christ's devotion ». La plénitude de la dévotion du Christ envers son Père. C'était la première offrande que Christ a présentée, c'était d'abord pour montrer que lui obéirait d'une façon parfaite. Il se soumettrait à la volonté de Dieu en tout point. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Holocauste, brûlé complètement. La deuxième type d'offrande, c'était des offrandes qui étaient sans défaut. Donc, il parle de l'impeccabilité et de la perfection de la vie terrestre de Christ. On a vu que Christ était, non seulement n'avait jamais péché, mais la doctrine de l'impeccabilité, ça veut dire que non seulement il n'avait jamais péché, mais il était incapable de pécher. Donc, ce que les Anglais appellent ça « the flawlessness of Christ's devotion ». Flawless, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. C'est quand il a fait sa vie terrestre, Christ, il n'a eu aucun défaut dans toute sa marche qu'il a vécu sur la terre. Donc, c'est flawless. On parle toujours de Christ devotion, la dévotion de Christ envers son Père. Donc, la première, c'était l'accomplissement parfait de sa volonté. La deuxième, c'était quand il s'est offert, c'était absolument sans défaut. La troisième, c'était les actions de grâce. Le côté fécond et fructueux du ministère de Christ, Lévitique 3, verset 1 à 17. C'est de valeur, on n'a pas le temps d'aller là-dedans, parce que vous allez voir que quand vous étudiez ça, vous voyez vraiment des symboles d'une partie ou d'une autre de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant, le livre de Lévitique. Pas les premières fois qu'on l'étudie, parce qu'on ne comprend rien, mais quand on commence à l'approfondir un peu, on voit que ça représente des choses qui concernent Christ. Les Anglais appellent la troisième type d'action de grâce, de fruitfulness of Christ's devotion. Fruitfulness, ça veut dire qu'il produit des fruits. Quand Christ est venu, sa vie a produit des fruits. Nous en sommes des fruits. Et après ça, il y avait les fameux sacrifices. Donc, il a commencé par des offrandes. Vous voyez que les offrandes, c'était pas quelque chose qui avait un rapport avec le péché. C'était quelque chose qui avait un rapport avec démontrer la pleine soumission à Dieu. C'était quelque chose pour d'abord honorer Dieu le Père. Ensuite, la quatrième et la cinquième, c'était quelque chose qui avait un rapport avec le péché comme tel. Donc, ce qu'il appelait les sacrifices d'expiation, qu'on trouve dans Lévitique 4, 1 à 5, c'est que quand Christ est venu, il a réglé ce qu'on appelle, les anglophones appellent ça, « the principle of sin ». Donc, le principe du péché, c'est que nous, en naissant, on vient au monde avec une nature pécheresse. C'est le principe du péché qui habite en nous. À cause de la chute d'Adam, nous héritons de la nature pécheresse. Christ s'est occupé de ça. Donc, il s'est occupé du principe du péché. Mais après ça, il y avait les sacrifices de culpabilité, dans Lévitique 5, versets 14 à 19, ce qu'on appelle « the practice of sin ». Autrement dit, les sacrifices de culpabilité, c'est pour régler les problèmes des péchés actuels. Voyez-vous une différence entre le péché qu'on a hérité à cause d'Adam, notre nature pécheresse qui est toujours présente en nous, et les péchés actuels, c'est les péchés qu'on commet dans notre esprit, par notre bouche, par notre langue, par nos actions, par nos désobéissances à la volonté de Dieu. Ça, c'est des péchés de commission. Des péchés qui se sont actualisés. Il s'est occupé des deux. Il s'est occupé de régler le problème du principe du péché, de notre nature pécheresse, et il s'est occupé aussi de régler le problème de l'actualisation, les péchés actuels, ceux qu'on commet dans notre esprit, toutes les formes, il s'est occupé de ça. Alors, quand on regarde dans l'ensemble de Lévitique, ça nous présentait des aspects différent de l'œuvre de Christ. Les trois premiers, c'était plus pour honorer le Père. Les deux autres, c'était pour nous, pour régler le problème de notre péché, notre nature pécheresse qu'on avait héritée d'Adam et les péchés actuels qu'on a commis depuis qu'on est au monde. La deuxième ordonnance concernant les prérequis du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il se devait d'être un représentant pour le peuple pour offrir des offrandes et des sacrifices. Voyez-vous, il y a deux mots. Si vous prenez ce qu'on vient de parler, là, il y avait trois offrandes, deux sacrifices. C'est pas la même chose. On fait la différence. Nous venons de voir que cet aspect de la sacrificature judaïque avait été rencontré par Christ et infiniment plus. La deuxième idée, donc, il se devait d'être un médiateur mandaté. Quand on est mandaté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé de faire quelque chose et on a reçu l'autorité pour le faire. Christ avait reçu l'autorité par son Père pour le faire. Et il était deuxième, on avait parlé qu'il y avait 5 critères pour devenir un souverain sacrificateur. Le deuxième critère, c'était qu'on se devait d'être un médiateur sympathisant. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament partageait la faiblesse, l'ignorance et l'égarement avec ses semblables. Si nous comparons le grand souverain sacrificateur Christ avec Aaron, nous comprenons que Christ était entièrement et absolument capable de compatir avec nos faiblesses et nos épreuves, avec la différence que Christ était sans péché. Sa sympathie n'était pas limitée, endurcie et aveuglée par le péché. Voyez-vous, il se devait d'être sympathisant pour ses semblables. Mais on peut voir que dans l'Ancien Testament, on a des exemples de souverains sacrificateurs qui, lorsqu'ils ont été placés dans des circonstances où ils se devaient d'exercer de la sympathie envers leurs frères, leurs sœurs, ne l'ont pas nécessairement fait. C'est à causer par quoi? Par notre dureté, notre limitation et notre aveuglement. Le péché, jusqu'à un certain point, ça nous aveugle face à la sympathie que nous devrions avoir envers les autres. Un exemple pour démontrer que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament n'était pas toujours sympathisant face à des choses où il aurait dû être sympathisant. 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 16. On a l'exemple de Anne, qui n'avait pas d'enfant, que Pénina était l'autre femme et qu'à chaque année, elle lui faisait des problèmes, elle le faisait pleurer parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et on va voir que le souverain sacrificateur n'avait pas nécessairement sympathisé de façon correcte avec elle. On va le lire. « Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Alors, Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu avait fait qu'elle était stérile. Et ça la faisait beaucoup souffrir, mais beaucoup souffrir. Et là, elle était en train de pleurer devant l'Éternel. Elle était en train d'implorer l'Éternel de changer ce problème-là. Et là, elle dit à Dieu, dans le verset 11, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Voyez-vous, Élie, c'était le souverain sacrificateur. Il observe sa bouche et avoue pleurer. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'elle a pris du vin et qu'elle est saoule. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 13, ça dit, « Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. » Voyez-vous, il n'a pas pris le temps de vérifier dans quel état d'âme elle était. Il a jugé selon les apparences. Alors, ça démontre une chose que le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, sa capacité de sympathiser à nos faiblesses, à nos misères, n'était pas aussi parfaite que celle de Christ, parce que Christ, lui, il les comprend parfaitement. On continue le verset 14, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? » Imaginez-vous une femme qui est en train de pleurer parce qu'elle va avoir des enfants. Puis lui, le souverain sacrificateur, il dit, « Coudonc, tu prends un coup, es-tu seul, là? » Imaginez-vous quel effet que ça a dû y faire. « Fais passer ton vin. » Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je vais juste vous donner un exemple, on pourrait en prendre d'autres. C'est pour démontrer que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament se devait d'être sympathisant envers les pécheurs, mais qu'à cause de sa nature pécheresse, il ne réussissait pas toujours à le faire. Troisième prérequis, il se devait d'agir comme un avocat et un intercesseur pour le peuple et pour lui-même. Jésus-Christ peut compatir parfaitement et sans faille dans sa sympathie puisqu'il est omniscient et qu'il a passé par les épreuves et les tentations humaines, comme on a vu tantôt dans Hébreux 4:15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous, tenté en toutes choses sans commettre de péché. Les Écritures nous présentent aujourd'hui. Alors, il rentrait dans le lieu très saint, et le but était d'intercéder, d'être notre représentant, d'être notre avocat pour demander à Dieu de pardonner leurs péchés. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est notre avocat. Imaginez-vous, on n'a pas un avocat à Montréal. Si on prendrait le meilleur avocat, peut-être qu'il chargerait 500$. Mais nous, il ne charge pas une scène. Puis il est bien meilleur que le meilleur avocat de Montréal. C'est-à-dire 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Christ est notre avocat céleste. » Ça nous dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Imaginez-vous quand on pêche, nous, si on n'avait personne pour nous défendre auprès du Père. Le Père, qu'est-ce que le Seigneur peut dire au Père quand disons que le malin se présente, « As-tu vu ton petit jeune là, sur la terre? As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Quel péché qu'il a fait? » là? Qu'est-ce que le Seigneur peut dire? « J'ai payé pour ce péché-là. » Automatiquement, tu as le meilleur avocat du monde, le Père va tout... Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, non? Et aussi le fait que maintenant, Christ, lui, il intercédait, mais une fois par année. Le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Maintenant, notre souverain sacrificateur, il a traversé les cieux, il est au ciel et il intercède de façon permanente. Alors, ça nous dit dans Romains 8, verset 34, « Qui les condamnera? Christ est mort. » Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Imaginez-vous, Dieu, Jésus est au ciel et il intercède pour nous. Notre nom de famille, il intercède pour Marcel Longchamp. Et je pourrais nommer tous ceux qui sont chrétiens ici, mettre votre nom. Il intercède pour eux aussi. Tous les chrétiens de toutes les époques, il a toujours été là pour intercéder en leur faveur. Alors, quand les Hébreux ont commencé à comprendre l'infinie supériorité de Jésus-Christ sur tout ce qui l'avait précédé, les prophètes, les anges, Moïse, Josué, et là, il est en train de commencer à faire le travail avec Aaron, c'est sûr que les Juifs, à la fin de l'Épître, ils n'ont pas pu faire autrement que dire, peu importe le prix que ça nous coûtera, peu importe les persécutions qu'on recevra de nos frères et sœurs, peu importe ce qui se passera, même si on faut se rendre jusqu'à la mort, ça vaut la peine parce que ce qu'on reçoit est beaucoup plus que ce qu'on perd. Deuxième point qu'on va regarder, c'est que Aaron était un sacrificateur. Un souverain sacrificateur, mais la différence, il était pécheur. Voyez-vous, Hébreux 5:3, « Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. » Voyez-vous, non seulement le Christ lui a offert pour les péchés du peuple, mais pas pour les siens. Voyez-vous la différence? Il est en train de leur démontrer, oui, il était sacrificateur, oui, il rentrait une fois par année, oui, il intercédait pour vous, oui, mais le problème, c'est que lui était pécheur. Non seulement il fallait qu'il présente des offrandes et des sacrifices pour les péchés du peuple, mais pour ses propres péchés. Jésus, vu qu'il n'avait jamais accompli aucune sous aucune forme, ça le rendait infiniment supérieur. Regardez dans Lévitique 16, verset 6. « Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. » En Ancien Testament, ça fonctionnait comme ça. La quatrième prérequis, juste pour démontrer que, dans le fond, Christ rencontrait les prérequis d'Aaron. Donc, il se devait d'offrir pour les péchés du peuple. Christ est infiniment supérieur en ce qu'il s'est offert en sacrifice alors qu'il était lui-même sans péché. On va aller un petit peu plus loin dans Hébreux 7, verset 26. « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. » De qui il parle dans le contexte? Il parle de Christ. Il est en train de dire, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, Christ. » Et là, il nomme des choses après. « Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il est en train de leur faire une méchante démonstration que retournez pas dans l'ancien système, de la folie furieuse. 1 Jean 3:5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y en a point de péché en lui. 1 Pierre 2:22. Et dans le contexte, ça parle de Jésus. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ésaïe 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et quoiqu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. On pourrait tout retourner dans Ésaïe 53, l'étudier en détail. On verrait très bien cette idée-là. Pourquoi les Juifs n'avaient pas compris que Jésus, c'était pas uniquement une libération politique et militaire, c'était une libération de nos péchés, une libération de notre condamnation qu'il était venu faire. Il n'était pas venu apporter, il voulait pas. La preuve, c'est qu'on lui a offert de devenir roi. Si, au moment que, quand on lui a offert de devenir roi, s'il avait dit oui, il serait devenu le roi d'Israël, puis il aurait réussi à soulever tout le peuple et à ramener un mandéon. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour nos péchés. Il était venu pour devenir le grand souverain sacrificateur. La quatrième chose qu'on va regarder, c'est que Aaron était un exécuteur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il exécutait la volonté de Dieu. Il avait été nommé divinement. Hébreux 5, 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Personne ne devait s'attribuer la fonction de souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament sans avoir été appelé de Dieu lui-même. C'était à l'époque un honneur extrêmement grand. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament une occasion où le peuple douta de l'autorité du souverain sacrificateur de Dieu et Dieu produisit un miracle pour rétablir cette autorité. Vous vous souvenez certainement ceux qui ont lu l'Ancien Testament. Dans Nombre 16, verset 2, ça dit que le peuple s'est soulevé contre Moïse et Dieu a fait un miracle pour démontrer que oui, il donnait la pleine autorité à Aaron. Ça dit qu'ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voyez-vous, l'Éternel avait pris deux hommes, ils avaient élevé. Et là, il y a eu un mouvement de jalousie du peuple. On est aussi saints que vous autres, pourquoi vous vous élevez au-dessus du peuple? Et là, si Dieu voulait que ces hommes-là aient de l'autorité, il fallait qu'ils démontrent que leur autorité, ce n'était pas quelque chose qu'ils s'étaient forgé par eux-mêmes. Ça nous dit dans Nombre 16, versets 28 à 35. Moïse dit, encore c'est dans le même contexte de ce soulèvement-là, Moïse dit à ceci, « Vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, et s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Voyez-vous, quand le peuple de Dieu voulait, ne reconnaissait pas l'autorité que Dieu leur avait donnée, Dieu leur donnait des preuves que c'était vraiment lui qu'ils avaient appelé là. Il faisait pas des choses. Hey, 250 hommes. La terre se fend, les maisons. Hey, c'était direct dans le séjour des morts. Quand on dit l'Éternel est bon, mais l'Éternel est sévère aussi des fois. Nombre 17, versets 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. » Alors, tu as des bouts de bois, des cannes, on pourrait dire. « Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, comme tabernacle, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. » Imaginez-vous un bout de bâton mort, là. Puis à un moment donné, il y a des fleurs qui poussent après ça. « Et je ferai cesser de devant vous les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. » Voyez-vous, c'est assez vert, là. On ne s'appropriait pas cette fonction-là et on ne questionnait pas non plus les voies de Dieu. La cinquième chose qu'il se devait de rencontrer, il se devait d'avoir été appelé de Dieu. Jésus-Christ avait été solennellement appelé de Dieu, le Père, pour accomplir les œuvres du grand souverain sacrificateur, même s'il n'était pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Judas. L'appel était divin et incontestable et indéniable parce que déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Psaume 110, verset 1. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Il parle à son fils. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. On reviendra plus tard dans les prochaines leçons sur la question du Melchisédek. Mais autrement dit, il voulait démontrer aux Juifs que oui, pour être souverain sacrificateur, il fallait avoir été appelé de Dieu, mais Jésus, même s'il n'était pas de la tribu de Lévi, avait été appelé directement par Dieu lui-même, ce qui l'autorisait à faire une fonction que Dieu lui voulait qu'il fasse. Hébreux, chapitre 5, versets 5 et 6, alors la semaine prochaine. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es Christ sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Voyez-vous, le psaume 110 vient s'accomplir dans le ministère de Jésus-Christ, parce qu'il est en train de dire que Jésus non plus s'est pas attribué cette fonction-là, cette dignité-là, sans la recevoir lui-même de Dieu. Et il cite le psaume 110. Alors, tout le fait que Jésus-Christ deviendrait leur souverain sacrificateur céleste avait été prophétisé dans l'Ancien Testament et s'accomplissait sous leurs yeux. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Christ, à cause de sa parfaite humanité, peut nous comprendre parfaitement, nous aider parfaitement, nous secourir parfaitement et nous libérer parfaitement. Deuxième application, Christ a pourvu à une offrande et à un sacrifice parfait et rendait ainsi les nôtres acceptables par Dieu. On a vu ce matin, dans la leçon ce matin, que la justification, ça nous rendait nos personnes acceptables par Dieu, ça rendait notre adoration acceptable par Dieu, ça rendait notre service acceptable pour Dieu. Donc, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, toute notre relation avec Dieu devient acceptable par lui. Troisième chose, à cause de l'œuvre de notre grand souverain sacrificateur Jésus-Christ, nous avons pu être appelés de Dieu pour l'obtention de notre glorieux et merveilleux salut. C'est à cause de Jésus qui est venu sur la terre, c'est lui notre grand souverain sacrificateur, c'est à cause de lui qu'on a été appelés à sortir des ténèbres et à entrer dans son admirable lumière. La supériorité de Christ sur Aaron est infinie. Et si on pèse, qu'est-ce que ça veut dire, infinie? C'est qu'il est en train de démontrer aux Juifs que Jésus était infiniment supérieur à tout ce qui l'avait précédé. Les anges, les prophètes, Moïse, Aaron, Josué, et là, il est en train de tout leur démontrer ça. C'est sûr que quand on lit dans une traite, mais qu'on n'a aucune notion de l'Ancien Testament, aucune notion de ce qu'on veut dire, c'est quoi dans l'Ancien Testament, l'office de souverain sacrificateur, c'est pas le livre le plus facile à comprendre en hébreu. Et si on n'a pas de notion avec l'Ancien Testament et avec le tabernacle, là, c'est sûr qu'on se perd un petit peu dans ce labyrinthe-là. Mais c'est un labyrinthe merveilleux quand on se donne la peine de fouiller un peu et de faire les relations qu'il y avait avec l'Ancien Testament. Alors, très certainement, la supériorité de Christ sur Aaron est infinie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Seigneur, merci encore une fois de nous avoir ouvert les yeux à la compréhension un petit peu plus approfondie de ce que c'est que notre grand souverain sacrificateur Jésus-Christ et de son infinie supériorité sur tout ce qui l'a précédé. Alors, Seigneur, très certainement qu'en faisant ces choses, l'auteur de l'Épître aux Hébreux venait convaincre ces personnes que c'était une erreur monumentale que de vouloir retourner dans le judaïsme alors que leur Messie était venu, mais qu'ils ne l'avaient pas compris de la bonne manière. Et c'est ce que l'auteur cherche à faire, de les rétablir et de leur faire comprendre que tout ce qui avait été prophétisé sur Christ, y compris ses souffrances sur la croix, était nécessaire. Et Seigneur, sans cela, nous n'aurions pas pu retrouver notre paix et obtenir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Merci encore une fois. Ouvre nos yeux à la compréhension des Saintes Écritures. Permet qu'on ait de plus en plus le goût de les étudier avec profondeur, d'y consacrer du temps et de faire les liens qu'il y a avec l'Ancien Testament, plus particulièrement avec Exode 25 à 40 qui parle du tabernacle, Seigneur, et on voit que ces choses sont vraiment intimement liées. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.